Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Lodev, nouvelle émission de Conseil de famille. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation dans le monde. Et pour évoquer ce sujet, comme d'habitude, nous sommes en compagnie de Anne-Marie Stamps, coordonnatrice du PRE, le programme de réussite éducative au CCAS de l'ODEV. Bonjour.
Bonjour Anne.
Maud Fréchoux, psychologue de l'EPE, est avec nous de l'École des parents et des éducateurs de l'Hérault. Bonjour Maud.
Bonjour.
Et Marion Verriès, accompagnante à la parentalité, formatrice de l'association Grandir Ensemble.
Bonjour,
bonjour Marion. Alors, l'éducation dans le monde, dans ce conseil de famille, quelles pratiques existent ailleurs? On va un petit peu l'évoquer. Dans l'éducation, comme dans beaucoup d'autres domaines, d'un pays à un autre, l'éducation varie, les pratiques aussi. On va parler de ce thème avec tout d'abord la chronique que nous a préparée Anne-Marie Stamps. Allez, on t'écoute.
Bienvenue dans un petit voyage pour explorer les différents styles éducatifs parentaux et découvrir comment ils varient d'une culture à une autre. Et oui, chaque culture a ses propres normes et valeurs qui façonnent la manière dont les parents élèvent leurs enfants. L'adage « il faut un village pour élever un enfant » reflète parfaitement la perspective de l'éducation dans de nombreuses cultures africaines. Cette philosophie met l'accent sur l'idée que la responsabilité de l'éducation et du bien-être des enfants ne repose pas seulement sur les parents biologiques, mais sur l'ensemble de la communauté. La collaboration, le respect mutuel et le soutien dans l'éducation des enfants y priment. De l'autre côté du globe, au Japon, une approche plus autoritaire est souvent observée. Ici, les parents peuvent avoir des attentes élevées envers leurs enfants en ce qui concerne la réussite scolaire et professionnelle, par exemple. Les punitions sévères peuvent aussi être utilisées pour maintenir la discipline et l'obéissance est souvent valorisée. Cela contraste avec les Pays-Bas, où l'approche permissive est plus répandue. Ici, les parents accordent une grande importance à l'autonomie et à l'auto-expression des enfants. Ils sont encouragés à explorer le monde et à prendre des décisions par eux-mêmes dès le jeune âge. Par exemple, le petit néerlandais peut être autorisé à jouer dehors sans surveillance, ce qui favorise leur développement de manière indépendante. Puis, nous nous envolons vers la Suède, où on observe plutôt une approche démocratique. Les parents suédois sont connus pour adopter un style encourageant, où les règles sont établies de manière transparente et où la prise de décision est partagée entre les parents et les enfants. Par exemple, lorsqu'il s'agit de planifier des activités familiales, les enfants sont souvent consultés et leurs opinions sont prises en considération, ce qui renforce leur sentiment d'autonomie et de responsabilité. Ce petit voyage démontre bien la diversité des styles parentaux à travers du monde, que ce soit l'autoritarisme au Japon, la permissivité aux Pays-Bas ou l'approche démocratique en Suède, chaque culture offre une perspective unique sur l'éducation des enfants. Ce qui est important tout de même de souligner, c'est que ces exemples ne sont pas des généralisations absolues, plutôt des tendances observées dans ces cultures respectives. Avec la mondialisation croissante, l'influence des médias sociaux, les frontières entre les styles parentaux peuvent devenir floues. Et de nombreux parents adoptent des approches éclectiques qui intègre des éléments de styles différents. L'essentiel est de trouver un équilibre qui favorise le bien-être et le développement sain des enfants, en tenant compte des valeurs et des normes de chaque société. Mais alors, qu'en est-il en France ?
Justement, qu'en est-il en France ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise éducation ? Si ? Non ?
Oui, non. C'est une question très très binaire là pour le coup. Je pense que la réponse est un peu plus grise, on va dire, un peu plus au milieu. Oui, évidemment qu'il y a des styles parentaux un peu mieux. On a aussi celui dont je n'ai pas parlé dans la chronique qu'on appelle désengagé, où justement le parent ne tient pas forcément compte des besoins de l'enfant, ou voilà, on va pas le primer ce style parental. Évidemment, il y a malheureusement toujours et encore dans le monde des infanticides, hein, des parents maltraitants. Donc bon, oui, il y a des styles parentaux qui sont clairement à bannir et à ne pas reproduire. Mais sur les autres styles, alors les recherches montrent que souvent le côté un peu démocratique et permissif est un peu mieux que l'autoritarisme, voilà. Mais je pense que par moment, si on est autoritaire, c'est pas forcément non plus extrêmement néfaste, ça dépend de la dose. Hein, le dosage, le contexte aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte.
Oui, un enfant qui traverse la route, on dit stop. Je reprends encore ma notion de traverser la route, c'est autoritaire, mais c'est nécessaire. Donc effectivement, il n'y a pas de règles. Après, la France est un pays effectivement où la parentalité elle est très individuelle. Voilà, il y a quand même deux axes très forts hein, au niveau du monde et de la façon dont on élève ses enfants. Il y a ce qu'on appelle les parentalités individualistes, comme dans beaucoup de pays européens et occidentaux. Et puis les parentalités plus collectivistes, où il faut tout un village pour élever un enfant à toute sa place, en Afrique et notamment, hein, ou en Asie. Ce qui est sûr, c'est que là où c'est compliqué, c'est quand on veut absolument, s'approprier des pratiques éducatives issues d'autres cultures et qu'on les sort du contexte. Ce que certains parents, des fois, essaient, c'est-à-dire qu'on va utiliser une pratique issue d'un peuple nomade et on va là. Et ça marche pas parce que, voilà, il faut aussi se rendre compte que la parentalité, elle est inscrite dans une culture donnée.
Et dans un contexte.
Dans un contexte donné, un environnement. Donc, on ne peut pas, de fait, transposer comme ça et faire que ça marche là et ça va marcher aussi chez moi. Non, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Et ça, moi, je l'avais bien repris, notamment. Il y a quelques années, quand j'étais jeune maman et je m'étais un peu penchée sur d'autres manières de faire. Et toi, Anne-Marie, tu parlais du Japon. Ce que j'avais eu comme information au niveau du Japon, c'est que alors, ça se perd actuellement, mais c'était une pratique ancestrale. C'est que les petits enfants au Japon ont ce qu'on appelle des pantalons troués, donc pour les besoins. Donc en fait, le petit japonais, de manière assez libre, peut effectivement faire ses besoins un peu où ils le souhaitent parce qu'ils ont des pantalons qui leur permettent parce qu'ils sont ouverts en fait au niveau de l'entrejambe et comme ça l'enfant peut faire ses besoins un peu partout. Mais ça c'est issu d'une culture. Vous reprenez ça dans une culture autre, ça ne fonctionne pas. Ou en Afrique, les mamans qui par exemple mettent les bébés dans le dos et qui sont en capacité de ressentir lorsque l'enfant va faire ses besoins. Et elle déplace hein, le bébé hors du dos pour permettre au tout petit de faire ses besoins. Et après, elle le replace parce qu'elle sente au travers... parce qu'il y a une compétence. Moi, clairement, j'ai mon bébé dans le dos, je ne sens rien du tout et il me fait pipi dessus. Vous voyez, je ne sais pas faire ça. Donc, tout dépend de la culture donnée et des compétences.
Oui, mais aussi les attentes. Enfin, des attentes. On aurait un petit garçon aujourd'hui en France avec un trou dans le pantalon et en pleine rue, il fait ses besoins.
C'est mal vu. Il y a un jugement social.
Il y a ce contexte qui est sûr. Autour. Et puis, on est confronté, nous, dans nos pratiques, parfois, à accueillir des familles qui viennent d'ailleurs et qui amènent avec eux, de fait, de leur parentalité, leur façon, leur style parental. Qui doit s'adapter petit à petit à leur nouvel environnement. Et c'est là où on les sent parfois en difficulté.
Ah oui, tout à fait.
C'est là où ça devient difficile.
Bien sûr. Ouais.
Ils comprennent pas forcément ce que ici, entre guillemets, est attendu. Parce que c'est un peu induit, enfin, c'est pas écrit quelque part.
Il y a un regard social.
Enfin, il y a un regard social. Et eux, chez eux, c'est tout à fait normal. Alors qu'ici, ce n'est pas forcément, inscrit dans les mœurs. Et c'est là où ça devient plus compliqué. Mais c'est là aussi, ces parents, qui créent des énormes compétences d'adaptation et d'imagination. Hein. Ce sont vraiment des parents très, très compétents, du coup. Et l'enfant aussi, lui, qui confrontait cette diversité, c'est un plus, hein, clairement. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le regard social, mais c'est quand on y est confronté qu'on se rend compte qu'il y a une différence culturelle, c'est quand on voyage aussi.
C'est très riche, quand on voyage, de voir observer les différentes façons de faire et de se questionner sur notre propre façon de faire aussi. On voit par exemple pour le sommeil, les enfants, le coucher des enfants, dans les sociétés plutôt occidentales, là, comme tu disais, mode ou individualiste, où l'individu est vraiment à une place importante, on voit que dès le plus jeune âge, on essaie de faire dormir l'enfant dans sa chambre pour que il soit autonome, en fait, qu'il apprenne à dormir. On voit même que, il me semble que c'est en Australie, Australie où il y a des institutions pour apprendre à dormir. On y va avec son enfant pour apprendre à leur faire dormir tout seul, alors que dans beaucoup d'autres pays, les pays asiatiques, en Inde, en Indonésie, au Sri Lanka, et en Afrique, c'est tout à fait normal, naturel de dormir avec son enfant. Et ça jusqu'à tard,
c'est
en fait.
Avancé, ouais.
Tout à fait. C'est là justement ce qu'on voit souvent quand les professionnels et quelque chose de très maladroit entre guillemets. Ah non, faut pas qu'ils dorment vous. Hein. Voilà, nous on va transposer nos normes et nos valeurs et nos croyances sur ces parents qui en fait eux ont grandi dans le lit, enfin ont toujours dormi dans le lit de leurs parents et leur enfant dort dans leur lit et que on n'est pas dans quelque chose de dysfonctionnant, parce que ça peut être dysfonctionnant chez n'importe qui, mais on n'est pas là-dedans, on est juste dans une autre culture et une autre façon de d'éduquer. Et là, du coup, c'est très dur pour eux.
Hein, quand même. Ouais, c'est important de se faire confiance, quoi, de savoir ce qui est important pour nous. Est-ce que oui, on a envie de dormir avec son enfant et c'est bon pour son enfant, ou est-ce que on a vraiment besoin, au contraire, que son enfant soit un petit peu plus loin parce qu'on a besoin d'un temps de repos et c'est important de s'écouter.
Et ce que vous dites, ça me rappelle aussi une situation que j'avais connue il y a plusieurs années d'une maman d'origine d'un pays d'Afrique. J'ai oublié le pays. Qui me disait quand elle est arrivée en France, qui a été pour elle très un choc, hein, c'est que elle a atterri sur la région parisienne et que elle avait son bébé comme font les Africaines, hein, dans le dos, et elle s'est très vite rendue compte de la dangerosité que ça avait dans le métro, où le bébé n'était pas protégé, du coup il prenait des coups, enfin les gens le poussaient, et alors que me disait chez moi dans la brousse, il y a aucune notion de danger, donc effectivement il y a aussi ce temps nécessaire pour ces familles, il y a une phénomène de culturation et d'acculturation de ce qu'elles ont connu pour s'adapter, s'approprier les nouveaux modes et pas être dans un, comme dit Anne-Marie, dans un rapport de ah ben non, faut pas faire comme ça. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une adaptation. Comme il y avait une crèche une fois qui m'avait fait part d'une expérience qui m'avait fait beaucoup rire, d'une famille d'origine russe et c'était une adaptation dans une crèche. Donc nous en France, l'adaptation, ça se passe progressivement. Et il y a un parent qui reste un petit peu, puis après il s'en va, de plus en plus longtemps. Et ben non, eux, les Russes, la famille russe entière est venue en crèche. Ils sont venus en groupe et ils sont restés la journée. Et les professionnels étaient complètement déboussolés, mais elles l'ont compris. Et elles ont compris que pour cet enfant-là, c'était normal et que pour la famille, c'était normal de rester et ça a apporté une sécurité dans la relation à l'enfant. Donc c'est à nous aussi de faire, et puis c'est très riche en plus de se nourrir de ces familles qui ont comme ça des valeurs, des transmissions différentes des nôtres. Très très riche.
Ça nous fait confronter un peu nos croyances. Parfois on se dit il faut qu'à 8 heures mon enfant de tel âge dorme, en fait c'est vraiment très important, c'est le plus important qui soit, alors qu'en fait quand on voit dans d'autres pays, ça peut être même des pays proches, hein, comme l'Espagne, où on voit souvent des enfants tard dans la rue, dehors, qui sortent avec leurs parents, qui dorment plus tard et qui finalement vont très bien et se développent tout à fait normalement. Ça permet aussi d'ajuster, de se dire bon, en fait il y a peut-être des choses qui sont pas si graves et de réfléchir un peu à ce qu'on croit être si important et qui n'est pas forcément dans d'autres pratiques.
Et oui, mais ce que tu dis là, c'est que la société est adaptée à cela. C'est-à-dire moi j'avais fait j'avais vu des textes autour de l'Amérique du Sud, hein, parce que ça, ils ont les mêmes conditions, les enfants se couchent très tard. Mais du coup, l'école est aussi très tard.
Elle commence plus tard.
Tout est adapté à ça. Nous,
l'importance de l'environnement, en fait, qui va créer aussi des styles parentaux. Je pense que surtout, ce qui est important, c'est qu'on fasse pas de l'ethnocentrisme, comme on l'appelle. C'est-à-dire que nous, on est les meilleurs. Nous, on sait. Nous, on est et vous êtes nuls, etc. Donc, qu'on tient compte de ça. Puis, je voulais quand même dire qu'on a un point écoute sur l'ODEV, hein, qui c'est 16 ans de 34 santé, qui est un psychologue. Si jamais on est en difficulté ou en souffrance par rapport à ces différences de culture, que ce soit en question de parentalité ou de vécu soi-même, c'est un psychologue qui est formé justement avec une formation à la médiation interculturelle, hein, sur ces questions-là, parce que c'est pas simple, c'est pas si évident que ça de pouvoir ne pas oublier l'un ou en faveur de l'autre, ou de ne pas rentrer dans aussi pour eux leur ethnocentrisme en disant chez moi tout est mieux. Ici, tout est nul. Et à l'inverse aussi, voilà. Donc, je pense que c'est, on a cette chance d'avoir cette ressource-là sur le territoire, donc que les gens n'hésitent pas à prendre rendez-vous.
On va faire une pause musicale avec une chanson intitulée « Les enfants du monde ». C'est Green Team.
Maman m'a dit de faire attention. J'ai pas compris mais j'ai monté le son. J'ai vu la terre mourir à petit feu. Comme dit mon père, on aurait pu faire mieux. J'ai pas compris, j'ai posé des questions. Dites-moi les grands, n'ont-ils pas de raison? Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici. Ou même pire, qu'on meure de leur connerie. Et ça danse, danse, danse dans ce monde. Mais ça ne pense pas.
Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde?
Tonton dit, je fais attention, et tu devrais faire pareil mon garçon. Dans quelque temps ce sera déjà trop tard, on ne peut plus laisser ça au hasard. J'ai pris ma feuille et fait quelques brouillons avant de vous écrire cette chanson. La vérité sort de la bouche des enfants. Donnez-nous droit de devenir grand. Et ça danse, danse, danse dans ce monde. Mais ça ne pense pas. Et ça danse, danse, danse dans la ronde. Mais nos vieux ne pensent pas.
Nous sommes les enfants.
Dans l'émission Conseil de famille avec l'éducation dans le monde. Alors pour cette dernière partie d'émission, quelle place l'éducation dans le monde, un classement? Il y a aussi, j'imagine, des bonnes choses à prendre dans chaque éducation, dans les différents pays. Donc en France, on n'a pas forcément la bonne éducation. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à prendre d'ailleurs, mais à adapter forcément.
Il y a des classements, différents classements. L'OMS fait un classement des pays où les enfants seraient le plus heureux. Alors, les indicateurs sont basés souvent sur Enfin, voilà comment on n'a pas vraiment défini le bonheur de l'enfant. Enfin, c'est compliqué, ça. Hein, on est bien d'accord. Donc, ils ont pris des indicateurs. Donc, c'est par exemple le nombre de places en crèche. Hein, c'est par exemple le nombre de. Est-ce que l'école est gratuite? Est-ce que si mon enfant rencontre une difficulté X ou Y, est-ce qu'il y a des prises en charge? Est-ce qu'il y a des places en établissement spécialisé, etc., etc. Quelles sont les politiques? En gros, c'est les politiques publiques qui vont être prises en compte et ils vont faire un classement à partir de là, se disant que s'il y a tout ça, toute cette politique publique, toutes ces places, toutes ces structures pour les enfants, ils seraient forcément heureux. Ça part un peu de là, quand même, hein, l'idée. Hein. Donc, du coup, on a des pays nordiques hein, qui sont souvent dans les premières positions. Et effectivement, ou des politiques publiques. Hein, je crois que tu as mis des chiffres.
Oui, sur la Finlande, notamment, voilà. Où on voit que déjà, le congé maternité de base est de 100 jours pour les mères et de 30 jours pour les pères, suivi d'après d'un congé parental de 475 jours qui est payé. Et qui peut être fractionné jusqu'à ce que l'enfant ait 3 ans. Donc ça peut être une reprise à mi-temps, ça peut être un temps partiel aménagé. Enfin ça, donc ça facilite quand même, voilà, une prise en charge de son enfant qui est vraiment facilitée par l'État. On voit aussi aux Pays-Bas cette facilitation aussi avec un congé maternité de 16 semaines minimum, paternité de 6 semaines, et puis après jusqu'aux 8 ans de l'enfant, des congés parentaux aussi qui sont facilités. Donc là, ça fait, voilà, évidemment, on peut pas vraiment comparer ces pays qui ont ces chances-là avec d'autres.
Oui, ce sont des véritables politiques publiques qui choisissent, enfin qui estiment que c'est important de passer du temps avec son enfant. Maintenant, attention à tous ces classements qui sont biaisés. On ne pourra pas dire que les enfants en Afrique ne pourront jamais être heureux, entre guillemets. Enfin, voilà, il faut vraiment faire attention. Il y a des choses qui sont biaisées au Japon ou enfin en Chine, par exemple, où on va peut-être choisir une ville pour donner les chiffres. Enfin, voilà, il y a des pays où il y a aussi des dictatures. Donc, forcément, comment ça rentre en compte aussi hein, dans le bonheur de l'enfant et qu'est-ce qu'ils vont ils vont pas forcément jouer le jeu, être transparents sur tous les chiffres parce que bon c'est pas très glorifiant entre guillemets d'être dernier du classement. Voilà, donc il y a des enjeux derrière hein, tous ces classements et toutes ces choses. Donc je pense qu'il faut en prendre et en laisser, mais on peut effectivement s'en inspirer parfois aussi, de se dire que ça c'est vraiment bien et on voit que c'est bénéfique.
Les choses importantes, les choses qui peuvent être transposables aussi quand on voit que ça fonctionne. Aux Pays-Bas notamment, on voit que la santé mentale des enfants, c'est un des critères qui revient et qui est vraiment noté comme réussi aux Pays-Bas. Ils disent qu'il y a 9 adolescents sur 10 qui sont satisfaits de leur vie, ce qui est assez rare dans les autres pays parce que l'adolescence est une période quand même vraiment, vraiment difficile. Après, à voir comment sont faites ces études, mais il y a quand même des pays où les enfants et adolescents se sentent mieux qu'ailleurs, et donc on peut voir quels sont les facteurs qui permettent ça. En Finlande aussi, ils notent le fait qu'il y ait des espaces verts partout et dans des grandes villes qui ressemblent plus à des forêts qu'à des parcs très aménagés, qui font que les gens ils vont beaucoup dans la nature, etc., et que ça facilite aussi un bien-être général. C'est des idées qui peuvent inspirer nos politiques publiques et nos façons de concevoir l'accompagnement des familles.
Oui, et c'est vrai qu'on voit qu'en France, bon, on n'est pas là pour dire qu'en France rien ne va, mais l'articulation entre la parentalité et le monde du travail est quand même très compliquée. Nous, on a œuvré à l'école des parents quelques années sur développer des crèches d'entreprise, parce qu'on sent bien qu'il y a quand même une souffrance hein, de beaucoup
ça
de parents.
Ça existe dans de nombreux pays.
Ça existe, et ça c'est très peu développé en France. Aux États-Unis, c'est beaucoup développé. En France, c'est très, très peu développé. Il y a très peu d'entreprises qui accueillent hein, les enfants de leurs salariés. Et ce qui permettrait de faire des petits points, des passages du parent, voir son enfant quelques heures. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui manquent.
On voit aussi qu'en France, parfois, le rythme de l'enfant est adapté
Ah oui, au rythme.
Au rythme du parent et son travail. Oui. Hein, on a essayé. Hein, ils ont essayé de réadapter l'école au rythme des enfants. Ça n'a pas un rythme neurobiologique avec des études, avec des choses, avec la semaine. Cette fameuse semaine à 4 jours et demi, ça n'a pas tenu. Non. Ça n'a pas tenu parce que effectivement, je crois que on part trop souvent encore du rythme de parent et forcément, du coup, ça a des conséquences quand même sur le bien-être des enfants. Mais le bien-être des enfants passe par le bien-être des parents et tout ça, c'est lié et l'un influence l'autre. On a encore du chemin à faire, je pense. Mais du coup, oui, c'est pas simple toute cette... cette intrication entre travail, famille, maison, politique publique, qu'est-ce qui est possible, acceptable pour tout le monde.
Oui, et beaucoup de parents s'en plaignent. Hein. Nous, en France, voilà, le congé maternité de 16 semaines, c'est très court. Il faut quand même penser qu'il y a 4 semaines avant l'accouchement, donc il reste quand même que 12 semaines après, ce qui est vraiment, vraiment peu. Et un congé parental avec des aides qui sont quand même très, très minimes et qui empêchent beaucoup de familles de pouvoir y accéder. Donc on est quand même encore dans des difficultés où les parents se culpabilisent. C'est soit tu choisis d'accompagner ton enfant, soit tu choisis ta carrière. Enfin, il y a un peu ce côté un peu clivant qui vraiment pose des difficultés et puis des tensions familiales importantes, très clairement. Et donc, on pourrait quand même se nourrir un petit peu de ce qui se passe dans les pays nordiques. Bon, après, il y a d'autres considérations à prendre en compte. C'est un coût, c'est un coût financier important. Bon, là, ce qui est en train de... Parce que une petite nouvelle là que j'ai appris il y a 2 jours, qui pourrait peut-être... C'est que l'État français a modifié, vous savez, la possibilité des municipalités à avoir la compétence petite enfance, qui était une compétence qui était jusqu'à maintenant non obligatoire. Il est devenu obligatoire. Donc là, l'État incite les municipalités à ouvrir des lieux d'accueil pour le tout-petit. Et la CAF de l'Hérault a organisé il y a 2 jours une rencontre avec les élus de l'Hérault. Donc il y avait quand même une centaine de maires parce que des moyens financiers sont mis. Donc la CAF octroie vraiment des moyens financiers très conséquents là pour permettre aux communes de pouvoir ouvrir des espaces d'accueil pour les tout-petits, donc les crèches. Donc pour favoriser vraiment la reprise du travail, parce qu'il y a quand même cette notion-là. Derrière, c'est quand même la reprise du travail. On incite aussi les gens à reprendre leur travail. Voilà, c'est ça derrière qu'on entend.
Alors, l'idéal, peut-être, ce serait de se créer sa propre éducation. Est-ce que ce serait l'idéal?
Puis de se nourrir de ce qui se passe ailleurs. Moi, je sais que quand j'étais jeune maman, je m'étais ouvert à d'autres pratiques et ça m'avait beaucoup plu parce que comme disait Marion, on est quand même sur des exigences de, par exemple, l'enfant doit seul dans sa chambre dormir et ça crée vraiment beaucoup de fatigue déjà et de culpabilité. Et quand pression. Tu vas voir un peu à côté, tu dis finalement s'il dort à côté de mon lit, est-ce que c'est grave? Dans plein culture, ça se passe comme ça et il n'y a pas de raison que moi j'ai envie de dire aux parents, et c'est ce que j'avais fait une époque à une maman qui m'avait posé la question. Elle m'avait dit moi on m'a dit qu'il fallait que mon bébé, il ait sa chambre, qu'il dorme dans son lit, qu'il fasse ses nuits. Et puis je la voyais, elle était épuisée. Et j'avais juste demandé, mais vous voulez quoi, madame? C'est quoi pour vous l'important? Que je dorme. Donc peut-être que pour dormir, si votre enfant est à côté, vous dormirez mieux. Donc entendre aussi les besoins.
Comment s'écouter, quoi.
Comment s'écouter, et puis effectivement, dormir avec son enfant, ce n'est pas une catastrophe.
Non.
Il y a plein de choses, tout dépend de la raison. Voilà, je pense que c'est pour plein d'autres choses pratiques ailleurs aussi, de ce qui est possible ou pas possible en fonction de son environnement, et quelle est la raison pour laquelle on va faire une pratique comme si, une pratique comme ça, que si on reprend encore l'exemple de dormir avec son enfant, si c'est parce que on n'arrive pas à dormir tout seul et qu'on est très angoissé, c'est peut-être pas la meilleure idée de dormir avec son enfant. Par contre, si c'est parce que on allait et que c'est bien plus pratique et on réveille pas toute la maison et on dort mieux, etc., c'est une très bonne raison. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir.
Tout à fait. Et pas se mettre trop de pression, pas se dire, voilà, il faut absolument que je fasse comme ci, comme ça, s'écouter, se faire confiance.
Mmh. On clôture l'émission sur ces mots. Mmh. Merci beaucoup. C'était donc l'éducation dans le monde. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Et puis, voilà, prendre peut-être des idées dans différents pays pour avoir une éducation type, mais ça serait vraiment très, très compliqué.
Alors, je conseille un petit livre très sympa qui s'appelle « Comment les Esquimaux gardent leurs bébés au chaud et autres aventures éducatives du monde entier », qui est un petit livre qui a été fait par une journaliste américaine, mais qui est issue d'une culture asiatique. Et justement, elle reprend comme ça des petites anecdotes des différents pays, parce qu'elle a fait le tour du monde avec sa petite fille, et justement, elle est allée à la rencontre, et c'est très mignon, et ça ouvre. Voilà, ça ouvre, et c'est très... Voilà, je le conseille.
Merci beaucoup. Merci Maud Fréchoux, psychologue de l'EPE, École des parents et des éducateurs de l'Hérault. Merci à Marion Verriès, accompagnante à la parentalité formatrice de l'association Grandir Ensemble. Merci beaucoup Anne-Marie Stams, coordonnatrice du PRE, le programme de réussite éducative du CCS de l'ODEV. Merci à Cédric Rémy pour la technique. Et on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.